Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipe est sauvage. 2 heures pour décoder le monde sans jamais oublier d'en déconner. 2 heures de gaieté informative pour vous, d'enfer compétitif pour eux. Car oui, depuis la rentrée, fini de rire pour les journalistes d'Europe 1, désormais plongés chaque après-midi au cœur d'une impitoyable compétition. Un seul sera élu chroniqueur du jour, celui ou celle qui vous aura apporté l'info ou l'histoire la plus étonnante, celle que vous aurez hâte de raconter ce soir au dîner. À mes côtés, ma complice, ma souffre-douleur, mon meilleur public. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Comment t'as trouvé ma petite formule d'entrée là? Décoder le monde sans jamais oublier d'en déconner.
Waouh, je suis épatée.
C'est le mot que j'aurais utilisé aussi. Ouais. Merci pour votre lucidité et votre impartialité, Eva. Je sens que ça va être une belle émission car face à nous, un comédien exceptionnel de drôlerie, actuellement en tournée dans toute la France pour les dernières de son one-man show. Mesdames et messieurs, voici
Emmanuel comme un soleil.
Bonjour Emmanuel. Manu Payet.
Bonjour Mathieu, bonjour toute l'équipe.
Bonjour Manu Payet.
Emmanuel, c'est votre prénom et c'est le nom de votre spectacle dont on fête les dernières. C'est vraiment les dernières ou bien vous faites une sardou, comme on dit dans le milieu du showbiz, c'est-à-dire que vous annoncez les dernières pour bien remplir et ensuite hop, vous rajoutez quelques dates?
Ouais, non, c'est vraiment les dernières.
Est-ce que le prochain est déjà en écriture?
Oui. Il est constamment en écriture. Le prochain n'importe quoi est en écriture depuis la naissance. Sinon, je ne serais pas là. Tu vois, sinon, je serais en train de inventer un vaccin ou faire un truc un peu plus utile, si tu veux.
C'est reste très utile d'apporter du bonheur aux gens, Manu.
Oui, ça dépend de la jauge de la salle.
C'est pas vrai. C'est pas faux. On va parler de ce spectacle, mais d'abord, mon cher Manu, laissez-moi vous présenter les forces en présence. À ma gauche. Selon un sondage en temps réel, 97% des auditrices qui nous suivent en vidéo sur Europe1.fr aimeraient le voir habillé comme vous sur l'affiche de votre spectacle, Emmanuel. C'est-à-dire quasiment à poil. Il est le seul informaticien à être plus sexy qu'un mannequin slip Dolce & Gabbana. Je vous présente Anissé Mbida. Bonjour Anissé.
Bonjour.
J'aime bien sûr cette fausse modestie qu'il a.
Non, mais
c'est ça que je préfère. Il n'aime pas qu'on parle de son corps, qu'il travaille à la musculation.
C'est pour ça que je suis à la radio, justement. Mais...
Bien sûr, ouais. Avec 10 points, vous êtes deuxième ex-aequo du championnat Europe 1. Avec quel sujet allez-vous vous maintenir sur les cimes du succès?
Eh bien, vous me présentez souvent comme monsieur technologie. Eh bien, on va quitter un peu la froideur du numérique pour célébrer un tournant historique. Pour la première fois depuis 30 ans, il se vend plus de vinyle que de CD-ROM, enfin de CD audio, quoi.
Je ne sais pas si c'est rapport avec votre voix sensuelle, mais
oui, je viens de me déshabiller, excusez-moi.
De tomber la veste. Aux côtés de cette montagne de muscles avantageusement surmontée d'un cerveau, une femme troublée, forcément. Mais Anne Le Gall, n'oubliez pas, vous êtes en compétition avec Anissé. Votre but, c'est de le battre. Je vous laisse lui adresser un mot concis et fair play avant de démarrer.
I want you.
Bien. Alors, Anne Le Gall, c'est pas comme ça que ça va se passer. Vous êtes la spécialiste environnement d'Europe 1. Et aujourd'hui, c'est un sujet courageux que vous avez choisi, puisque alors même que j'avais bien stipulé pas de sujet à la con chez moi, vous nous parlez aujourd'hui des flatulences de vaches.
Je veux parler précisément des vaches à bas carbone. Donc oui, comme les voitures à bas carbone, il y a des vaches qui dégazent propre.
Voici le programme, l'équipe est sauvage, c'est parti.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
Jusqu'à 18h, les meilleurs journalistes d'Europe 1 se défient pour vous offrir la meilleure chronique sous l'œil complice d'un invité qui est un grand comédien, certes, un humoriste de talent aussi, mais surtout un ancien confrère. Manu Payet, vous avez en effet commencé votre carrière à la radio, pas n'importe laquelle, Énergie Réunion. Quand vous revenez dans un studio comme ça, ça fait un pincement au cœur ou vous vous dites « Oh là, heureusement que j'ai raté ce métier ».
Les deux, pour être très honnête, les deux. Je suis en train de faire ce pour quoi j'ai été initialement formé, c'est-à-dire de la radio, que j'ai fait de manière à peu près correcte et honnête, en tout cas, pendant des années, pour vous parler de ce pour quoi je pense que je suis un peu né quelque part, c'est-à-dire la scène. Donc c'est super.
Sur la période radio, votre période radio, Manu, il y a quand même une anecdote fabuleuse que je ne me lasse pas d'entendre. Quand vous étiez animateur à La Réunion, donc une anecdote qui en dit long sur votre rapport au sommeil. Vous êtes quelqu'un qui dort beaucoup, du coup pour présenter une matinale, c'était pas idéal en fait.
Oui, enfin je suis quelqu'un qui dort beaucoup, je dors plus mon ami, ça y est, j'ai fait un film et après j'ai eu un enfant. Alors, déjà est derrière nous, mais alors vraiment, c'est-à-dire que même quand elle n'est pas à la maison, je ne dors plus, c'est terminé tout ça. En revanche, je suis toujours en retard.
Et oui.
Et ça, je tiens à mettre l'accent là-dessus.
Et vous l'étiez à la matinale aussi.
Ah bah la matinale, en retard, c'était le prénom. J'ai réussi, et là c'est vraiment un exploit que j'ai fait, à ne jamais me faire virer d'une antenne, alors que pourtant, je suis allé à mon micro en retard quasiment presque tous les jours.
Vous arrivez en retard pour la matinale?
Ah oui, très souvent. Mais le problème, c'est que quand tu animes sur une locale, et j'embrasse tous les gens qui m'ont donné ma chance à La Réunion, j'embrasse Sébastien Follin qui m'a appris à faire de la radio, quand tu animes sur une locale, c'est toi qui as la clé de la radio. Tu dis bonjour à personne en arrivant. Tu vois, ça c'est vous, les nantis, les bourgeois. Tu comprends, des antennes nationales, des grandes radios périphériques qui arrivaient avec des bonjour, Nathalie, ça va? Bien dormi? Comment va le petit? C'est vous qui faites ça. Moi, j'arrivais et je devais lever la grille déjà, tu vois. Parfois même, j'étais à l'heure, mais le fusible de la grille qui avait pété. Je rappelle qu'on était dans une région parfois cyclonique et parfois la grille ne se levait pas. Je pouvais même pas dire aux gens à l'antenne qu'on était en alerte rouge.
Sur l'affiche du spectacle, une affiche, alors je pense que tout le monde a vu. Tout le monde a vu cette affiche de Manu Payet en Emmanuel. Emmanuel, le film érotique des années 70, en position assez érotique sur, sur ce magnifique fauteuil en rotin. Ça, c'est venu comment? C'est un délire de fin de soirée, l'idée du fauteuil d'Emmanuel?
Non, en fait, c'était... Montrez-la à Nisset qui la ramène un peu. Regardez-moi ça, Nisset. Regardez la gambasse. Il n'y a pas de retouche. Hein. Zéro retouche.
Pas de Photoshop.
Je vous jure que c'est vrai.
Non,
pas de Photoshop.
Il y a des poils dessus.
Et, non, il y a encore les poils. C'est la lumière qui les cache un peu. Non, ça, c'est l'affiche que je voulais faire.
On va vous la mettre sur Twitter. C'est,
s'il vous plaît, merci beaucoup. C'est l'affiche que je voulais faire pour mon premier spectacle.
On vous l'avait refusé?
Non, j'ai pas eu les couilles.
Voilà.
Non, j'ai pas eu les couilles.
Là, on les voit pas non plus.
Ouais, non, c'est vrai, non, mais là.
Il a désormais les couilles. Manu Payet est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
L'équipe est sauvage continue. 2 heures d'une course-poursuite sans rambarde de sécurité entre les meilleurs journalistes d'Europe 1. En ligne de mire, le prestigieux titre de chroniqueur du jour et sa couronne qu'on va m'apporter. D'ailleurs, j'ai pas la couronne dans le studio, c'est un scandale. Nos deux premiers concurrents sont prêts. Anne Le Gall, ne ménagez pas Anissa Mbida. C'est pas parce qu'il est beau comme un dieu que vous devez minauder. Vous allez l'exploser, dites-lui.
Can't get enough of your love, baby.
Mais c'est pas possible, Anne. Moi, je vous aiderai. En plus, vous n'allez pas arriver à le pécho avec un sujet sur les pédages. Hein. Soyons réalistes. À tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1. L'équipe est sauvage continue avec Eva Roch, Anne Le Gall, Anissa Mbida. 2 heures d'une farouche compétition entre les journalistes d'Europe 1 qui sont prêts à tout pour écraser leurs collègues. Sauf Anne Le Gall. Anne Le Gall, vous êtes notre spécialiste environnement. Votre gentillesse et votre marque de fabrique, votre capacité à vous enthousiasmer pour tout et n'importe quoi, même un texte de loi sur les cigognes est impressionnant.
Vous riez, mais c'est ce texte qui a permis, par exemple, de sauver la cigogne blanche dans les années 70. Aujourd'hui, on en compte 2000. Belle réussite.
Super,
oui,
top, génial.
Non,
vous ne savez pas que cette histoire de cigogne.
Il y en a trop, on est emmerdé.
Quelle belle histoire vous nous racontez aujourd'hui, Anne.
Eh bien, je vais vous parler de ces vaches à bas carbone qui sont donc des vaches qui polluent moins comme certaines voitures.
Mais vous l'avez trouvé
moins.
Sur le site du Gorafi, ça, c'est pas possible.
Mais non, cette histoire. Parce que vous ne le savez pas, mais vous allez l'apprendre. Oui. Les vaches françaises polluent autant que 15 millions de voitures. 15 millions, vous entendez? Vous les entendez?
L'ensemble des vaches françaises.
Ça fait un petit peu moins d'un tiers du parc automobile français, puisqu'on a 40 millions de véhicules en circulation. Parce que oui, en ruminant, les vaches produisent du méthane avec leur eau et leur paix. Donc au total, l'élevage laitier est responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Voilà.
Mais ce n'est pas une fatalité.
Ce n'est pas une fatalité.
Oh j'aime quand vous lancez dans l'humour.
Joli.
Surtout sous l'œil d'un humoriste, je trouve ça particulièrement courageux.
Coup, vous l'avez vu à votre compagnon, ça, cette chronique, avant de venir
aujourd'hui?
Est-ce
que vous l'avez testé avant?
J'aurais peut-être dû. Alors, non, mais c'est très sérieux, parce que de la même façon qu'on a innové dans le diesel un peu plus propre, on a aussi innové dans les pets de vaches moins polluants.
Mais comment?
Les professionnels de l'élevage ont constaté qu'en nourrissant différemment les vaches, en leur donnant par exemple de l'herbe et des graines de lin, eh bien, elles digéraient mieux, donc elles dégazaient moins.
C'est le terme, écoutez, c'est le terme alors, scientifique, hein, dégazé.
Est-ce qu'on peut déjà avoir un petit pronostic quant à la fin
Manu Lévy, peut-être déjà un premier avis sur, sans avoir entendu les autres.
Hein. Bah, ouais, c'est bizarre, mais je suis en train de revoir un petit peu moi les pronos là.
Mais la chronique n'est pas finie.
Ah non, la chronique n'est pas finie du tout puisque j'ai une relance. Donc il suffit de modifier l'alimentation des vaches pour qu'elles polluent moins, Anne, c'est ça?
Alors il ne suffit pas, non. Pour réduire les émissions de carbone des élevages laitiers, on peut aussi faire écouter de la musique aux vaches et faciliter ainsi leur digestion en réduisant le stress. C'est en tout cas ce qu'expérimente l'élevage des frères Berthaud dans l'Eure. C'est l'une des fermes laitières qui émet le moins de CO2 en France. Chez les frères Berthaud, eh bien, il n'y a pas non plus de soja importé pour l'alimentation du bétail, ce qui augmente le bilan carbone, évidemment, quand on importe. Là, il y a 20 hectares de prairies, 25 hectares de culture de maïs. Donc, tout ça, ça capte le carbone, au contraire. Et puis, dans cette ferme qui compte quand même 90 vaches, la chaleur du lait qui sort du pis de la vache, donc à 38 degrés, et qui doit passer à 3 degrés en 3 heures, cette chaleur est récupérée pour ensuite permettre de chauffer les circuits d'eau dans les tables. Donc là aussi, c'est de l'économie de réaliser. Et avec ces méthodes, c'est très sérieux, l'empreinte carbone du lait fabriqué peut être réduite de 20% en l'espace de 10 ans. Donc aujourd'hui, il y a 9000 exploitations en France qui sont passées sur ce régime bas carbone. Donc vous voyez, c'est pas du vent cette histoire. D'ailleurs, le gouvernement...
Manu,
j'allais.
J'aurais des points pour les jeux de mots.
Vous remontez, c'est en train de remonter. Contre
et d'ailleurs, non mais... Et le gouvernement envisage très sérieusement de donner une prime à ces exploitations exemplaires.
Et d'arrêter de taxer le diesel, comme ça on pourra ressortir nos 4x4.
Alors en tout cas, les éleveurs laitiers, eux, pourraient être en quelque sorte payés pour le CO2 qu'ils auront évité de rejeter.
Ah non, c'est bien foutu de votre gueule, mais c'était néanmoins une chronique intéressante, parce qu'on a appris un vrai
truc. Et tout ça, c'est véridique, c'est chiffré,
c'est
scientifique.
On vous fait confiance, on rappelle, au-delà de la dimension humoristique de l'émission, on rappelle que vous êtes tous des journalistes assermentés, si j'ose dire. Vous
avez absolument.
Tous. Alors, ah non, pas tous, mais Manu.
Plus de carte de presse, ça, sinon on ne pouvait pas se les payer. Mais enfin, vous avez une passion
techniquement
pour
vous
le journalisme.
Restez, voilà, et au moins, c'est votre hobby en tout cas, c'est votre hobby. Merci Anne Le Gall, on pourrait s'arrêter là, mais non. Et là, plus que jamais aujourd'hui, il y a la question vache de l'autre chroniqueur. Anissa Mbidar.
Alors, j'aime beaucoup Anne. J'adore ces idées champêtres, pastorales et tout ce qu'on veut. Enfin, c'est magnifique, c'est magnifique. Il n'empêche qu'elle nous parle de très belles exploitations. Des exploitations à de 25 hectares avec 25 vaches qui broutent dans l'air. Mais on oublie la ferme des 1000 vaches. Le vrai problème, c'est quoi? C'est les fermes de 1000 vaches où elles sont des milliards et des milliards. Et qu'est-ce qu'on fait du méthane qui est rejeté par les fermes des 1000 vaches? Eh bien, on fait de l'énergie avec.
Figurez-vous, oui, on peut effectivement utiliser les déjections animales pour produire du gaz, de l'énergie. En fait, tout ça, c'est de l'économie circulaire. Donc
plus les vaches pètent, plus on a d'énergie.
Très beau son à isoler. Anissa Mbidar pour moi demain. C'est très bien, Anissa. Il va sortir à toutes les sauces, si j'ose dire, ce qui n'est vraiment pas très élégant vu le son en question. Anne, c'était une très belle chronique. Je dis bravo. Manu Payet, qui est notre invité, ne sait pas encore pour qui il va voter, mais il sait déjà pour qui il ne va pas voter. Il sera à l'Olympia le 21 et 22 septembre prochain. Manu Payet est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
L'équipe est sauvage continue, 2 heures pour se cultiver gaiement sans se claquer un neurone et apprendre à découvrir un invité grâce à des interviews percutantes avec des questions choc. Éric Emmanuel Schmitt, est-ce que vous aimez la purée? Aujourd'hui, c'est... Oui, j'ai osé ça, oui. Aujourd'hui, c'est Manu Payet qui nous accompagne. Et votre voix, Manu, comptera triple au moment d'élire le chroniqueur du jour. Celui ou celle qui vous aura offert le sujet le plus concernant ou le plus étonnant. On va en parler dans un instant de l'incroyable phénomène vinyle qui explose aux États-Unis, nous dit Anissa Mbidar. Mais Manu, je connais un peu vos goûts et je sais ce que vous vous dites.
Pour l'instant, nous, il n'y a qu'un truc qui nous fait bander. Enfin, c'est le Beaujolais.
Mais je vous dis banco, Manu, puisqu'à l'occasion des foires au vin, notre expert Olivier Pouls viendra enfin nous expliquer à quoi rime, vous savez, les fameuses médailles à poser sur les bouteilles de vin dans nos supermarchés.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage continue avec Eva Rocken Le Gall, Anissa Mbidar. 2 heures pour étancher votre insatiable soif de savoir tout en gainant vos zygomatiques. Chaque après-midi, les journalistes de la rédaction d'Europe 1 se déchirent pour vous offrir l'info la plus bluffante. L'un repartira avec les lauriers de la gloire, l'autre brecouille, comme on dit dans le bouchonnois. Le tout sous l'œil d'un invité de marque, Manu Payet avec nous pour les dernières de son spectacle Emmanuel en tournée dans toute la France. Et à l'heure d'une première pause musicale, il serait bon d'écouter justement le prétérite, le tube de Manu Payet. Moi j'aurais adoré, hein. C'est ce que j'avais proposé, mais la direction d'Europe 1 m'a dit plutôt Mika, Ice Cream sur Europe 1. Qu'est-ce que c'est ça, Mika Ice Cream? Bon, je suis complètement largué, moi.
Là, il fait un album sur tout ce qu'il aime bouffer. Ice Cream, c'est la 7. Et bizarrement, il y a Ritvo.
J'en cite de pas.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures d'une folle chevauchée culturelle en compagnie de journalistes compétents et rigoureux, certes, mais qui ont aussi un sacré sens de la déconne et de la fête, à l'instar d'Anne Le Gall.
5, 4, 3, 2, 1.
Hey, 0.
Et doucement quand même, Anne, on n'est pas sur énergie, hein. Lequel de ces génies de l'entertainment sera désigné chroniqueur du jour? Vous votez via Twitter, mais le vote de notre invité d'honneur contre à triple, Manu Payet, est avec nous pour fêter les dernières de son spectacle.
Emmanuel,
oui, vous allez l'entendre tout le temps, c'est une de mes chansons préférées de François Valéry. Emmanuel, en tournée dans toute la France, ça fait 2 ans que vous le jouez. Il faut dire qu'il est sacrément bon au spectacle. Vous avez même été nommé au Molière catégorie meilleur spectacle. Populaire, vous l'avez toujours été, mais cette reconnaissance de la profession, c'est quelque chose qui vous a touché particulièrement?
Ah oui.
Le jour, vous vous souvenez du jour où vous avez reçu le texto?
Comment,
petit frisson.
Mais ma femme en était gênée. De ma joie.
Ah oui.
Ouais, ouais, ça va, c'est pas la peine de sauter comme ça, comme un. Je sais pas.
Non, mais il faut dire que vous étiez en compétition avec que des grands noms. Il y avait qui à côté d'où? Il y avait Jérôme Commandeur, Florence
Blanche
Foresti,
Gardin,
Blanche Gardin.
Ouais, ouais.
Enfin,
ouais.
Que
il y avait une super, super compète. Il y avait Jamel aussi.
Oh, Jamel, ouais.
Fabrice Eboué, je crois.
Ah oui, il y avait Fabrice Eboué cette année.
Ouais, ouais, ouais. Donc, il y avait une super compète. Et puis, enfin, une super compète, c'est nul de dire ça, mais je veux dire, c'était avec plein de gens, effectivement, dont j'aime beaucoup le travail. Et de me retrouver là, ouais, ouais, avec ce spectacle que j'ai écrit avec mes petites mains, très peu confiant à l'époque où je l'avais écrit.
Pourquoi ?
Bah parce que tu vas sur scène, on te met un micro devant la bouche et tout. Enfin, faut avoir un truc à dire quand même, quoi.
Ouais,
ou
vous
alors.
Déjà fait.
Oui.
C'était votre
vous
deuxième
l'avez déjà
spectacle.
Fait avec succès.
Hein. Ouais, ouais, mais là j'ai écrit seul parce que je voulais me lancer ce challenge de savoir si j'étais encore drôle seul. Parce que après, j'ai souvent été accompagné d'auteurs. Mon premier spectacle, je l'ai écrit avec Philippe Michelin, qu'il a également mis en scène. Philippe, après, a fait des films, etc. Mm. Et puis, bah voilà, donc du coup, ça, c'était un petit peu, merci de le dire, la espèce de consécration d'avoir été nommé pour ce spectacle Molière. Ça m'a... Oui, oui, j'étais très, très heureux. J'étais content d'être là, d'être assis dans le truc et tout. Et alors, je vais dire la vérité, hein. J'ai même été très heureux que ce soit Blanche qui l'ait. Je l'aurais pris ce soir-là, franchement, j'aurais été gêné.
Vous avez préparé le discours quand même ou pas ?
Non.
Non, par
bah
superstition.
Non. Ah non, non, je voulais pas. C'est le truc dégueulasse du gars qui rentre chez lui et qui jette le papier.
Alors, le sale moment.
Ou alors,
le sale moment.
Quand tu ressors le costard 6 mois après pour aller ailleurs, ta femme, il y a un papier dans le truc de ta veste, là, c'est quoi ? Ne le lis pas ! Ne le lis pas !
Pour ceux qui vous auraient jamais vu sur scène, Manu Payet, qui ne connaîtraient pas votre univers, vous êtes loin, me semble-t-il, de la mode du stand-up. Vous êtes plus un conteur.
Ouais, ben merci de dire ça. Je me considère comme tel. C'est gentil de l'avoir vu.
Mais c'est vrai.
Ah oui, oui. Oui, oui, oui. Alors c'est pour ça que tout le temps, il m'invite dans les trucs de. Dans les festivals de stand-up et tout.
Ah, tu viens, tu fais 7 minutes. Ouais, c'est pas votre truc, ça.
Mais non, mais j'ai trop peur. Mm. Franchement, je suis tétanisé. Moi, j'ai besoin de m'installer. J'ai besoin d'avoir parlé un peu pour qu'ensuite ça fonctionne. Tu vois, Anne me regarde différemment maintenant depuis que. Tu vois, elle se dit, je le connaissais pas celui-là. Bah finalement.
On embrasse votre Marianne, hein, qui nous écoute. Dépêchez-vous d'aller l'applaudir car ce sont les dernières de son spectacle. Emmanuel en tournée dans toute la France et à l'Olympia du 21. En 22 septembre, Manu Payet passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
Nous sommes le 10 septembre 2019 et nous sommes réunis aujourd'hui, Studio Coluche, autour de ce micro. C'est pour rendre un dernier hommage à l'amitié qui régnait avant dans la rédaction d'Europe 1. Fini les pots entre collègues, désormais Manu, c'est la guerre civile. Même le séminaire de rentrée et les activités de team building n'avaient pas tout à fait la même saveur.
1, 2, 3, soleil, et tu te retournes. Et toi tu fais 1, 2, tu te retournes. 3 soleils. Alors, attends, ça va bien les conneries maintenant.
Je plaide coupable. C'est moi qui ai eu l'idée de mettre en concurrence les journalistes de la rédac, comme disait l'autre.
Désolé.
À tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue 2 heures à la croisée du journalisme le plus rigoureux et de la bonne humeur la plus potache avec Eva Rock, Anne Le Gall, Anis Mbida. Et sous le contrôle de notre invité arbitre du jour, Manu Payet, qui nous accompagne pour fêter les dernières de son one-man show à succès, Emmanuel, dont vous avez forcément vu l'affiche dans la rue, n'est-ce pas Eva ?
Elle est magnifique.
Franchement, on vous en parle beaucoup de cette affiche.
Ouais, c'est super. C'est super. En fait, nous, moi, je voulais faire une affiche aussi qui change un petit peu des affiches un peu plus communes de spectacles où t'es obligé de montrer ta gueule avec une cravate et un micro pour dire venez, ça sera bien. Tu vois, je suis content d'être là, je sais pas quoi. Je voulais faire quelque chose de différent, non pas parce que les autres sont pas bien, mais pour proposer autre chose parce que comme je savais que ça allait être affiché partout, je me suis dit, attends, proposons un truc. Que les gens se marrent dans la bagnole en allant bosser le matin. Moi, je me souviens très bien de cette pub pour un shampoing où le lion s'était fait un brushing. La lionne, vous vous souvenez ?
Ça nous ramène loin, ça m'a
Ouais, c'était début 2000, ouais. C'est quand j'allais bosser à la radio, je voyais ça le matin. Et je me disais, putain, mais qu'est-ce que c'est bien de voir ça le matin, bordel ! Et l'assurance de cet animal, tu sais, avec ce truc de, bah oui, voilà, et quoi ? Alors quoi ? Qui va dire quelque chose ? Voilà, on a le droit de prendre soin de soi. Y compris dans la savane.
C'est vrai que c'était bon.
Et je me suis dit, voilà, il faut qu'on arrive à être aussi con que ça.
Alors, vous êtes là. Il a réussi à être aussi con que ça avec cette superbe affiche. Elle marque vraiment cette affiche. Elle me donne une idée d'ailleurs pour la campagne de pub Europe 1. Non. Prenons par exemple Anissa Mbida. Imaginez la percée sur la cible stratégique des femmes célibataires ou en couple mais ouvertes de 20 à 75 ans. Comme dirait Luchini,
c'est énorme.
Anissa, en attendant cette séance photo et en espérant que vous ne soyez pas allergique au rotin, avec quel sujet allez-vous tenter de séduire Manu Payet et nos auditeurs cet après-midi?
Un sujet, je pense, qui nous rassemble tous. Hein. On nous avait dit que le CD était la machine, enfin le format ultime pour écouter la musique. Eh bien non, le vinyle revient à grand galop et c'est ce dont on va parler.
Mais qui achète
on
des vinyles?
On en parle tout de suite.
Vous pouvez partir, Anissa.
Je vais vous raconter, je pensais que c'était un teasing.
Vous avez écrit que un teasing?
Voilà, c'est un teasing. Le mec s'est pas fait chier, c'est dit avec un teasing,
non,
je vais gagner.
Je suis comme Manu Payet, moi j'ai besoin de m'installer.
Oui, mais Manu Payet est une star, Anissa.
Oui, mais je m'inspire. Et donc, depuis longtemps, on sait que les vinyles reviennent. Hein. On voit les disquaires qui reviennent dans les villes, etc. Oui, il y a des ventes progressent et les ventes de CD qui sont en train de baisser. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez historique. Pour la première fois depuis 1986, les courbes viennent de se croiser aux États-Unis. C'est-à-dire que les ventes de vinyles ont dépassé les ventes de CD audio.
Je fais une pause là-dessus. Vous me surprenez parce que moi, personnellement, je pensais que les vinyles, moi, j'en ai chez moi, je pensais que c'était un phénomène bobo parisien, en tout cas citadin. Et alors qu'aux États-Unis, la vente de vinyles dépasse les CD, je sais pas vous autour de la table, mais moi, ça me surprend beaucoup.
Même en chiffre d'affaires. Alors justement, on s'imagine justement que c'est que des bobos parisiens, ouais. Mais non, il y a des moins de 30 ans. Même en France, la moitié des ventes de vinyles se font à des moins de 30 ans. Et tout ça, grâce à qui, on va dire? Grâce aux DJ. Beaucoup de DJ ont gardé l'intérêt du vinyle, parce que justement, ça permet de faire des mix beaucoup plus intéressants. Toute la musique électro, toute la musique hip-hop qui a continué à pousser, à soutenir les ventes de vinyles. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le problème, c'est qu'on a un peu marre du MP3. C'est que la musique streaming et en MP3, il y a le problème de la qualité, c'est sûr.
De compression aussi du son. C'est moins bon en fait.
Mais aussi parce qu'on aime bien avoir une belle pochette, un bel objet avec une belle. Où l'artiste peut vraiment s'exprimer. Il y a la qualité sonore aussi qui est importante. Alors, on peut toujours débattre sur la qualité du MP3 par rapport à la qualité du vinyle, mais il se trouve qu'aujourd'hui, quand on achète un vinyle, eh bien, on possède un objet, on a fait l'effort de l'acheter, on le voit. Alors que quand on téléchargeait sur iTunes ou sur d'autres plateformes ces fichiers.
Je le fais toujours, mais regardez pas comme si j'étais un ringard. Hein.
Oui, mais qu'est-ce qui devient de ces fichiers?
Il n'y a pas
de relation avec ces fichiers. Alors que les vinyles, on peut les transmettre, on peut les donner à d'autres. Donc il y a ce retour à la qualité sonore, à l'intérêt de posséder un objet, et c'est plus simplement les bobos qui sont nostalgiques du vinyle et du craquement, etc. C'est aussi une marque, j'écoute du tout venant en MP3, et par contre, quand je veux acheter, quand je veux ce que j'aime vraiment, je le prends vinyle.
Et justement, c'est quoi les titres les plus vendus du coup? Moi, je pensais que c'était du jazz, mais non.
Alors, il y a quand même beaucoup de bobos parisiens qui continuent. C'est 300 000 albums vendus par les Beatles, par exemple. Help, I need somebody, help,
not just anybody. Pour une musique assez médiocre.
Non, ouais. On peut le dire, Manu. C'est très surprenant. D'ailleurs, c'est le thème qui suit. Bon, parce les Beatles sont-ils surcotés?
100 000 albums vendus pour Queen également.
Quel bonbon.
Et ça, c'est des grosses ventes, mais il y a énormément d'albums un peu plus confidentiels parce que c'est des albums électro, c'est des remixes un peu spéciaux qui sont joués en boîte de nuit, qui sont utilisés par des DJ et donc ils font moins de ventes unitaires, mais qui gardent encore leur puissance.
Et Varrock ?
Il y a un petit truc aussi avec les vinyles, c'est que vous pouvez les transmettre. C'est-à-dire, il y a un côté héritage. Alors qu'aujourd'hui, quand vous avez votre bibliothèque iTunes ou autre plateforme, vous voulez la transmettre à vos enfants ou à vos petits-enfants, vous ne pouvez pas.
Si,
c'est assez dommage.
Il y a une appli qui te permet de faire ça.
Non, mais on peut en fait. Mais c'est pas. Il y a un truc impersonnel, quoi.
Ouais. Tout à fait.
Merci Anissa Mbida, votre chronique mérite-t-elle 3 points. Notre invité Manu Payet tranchera en fin d'émission. Il sera ce soir en spectacle à Versailles, Eva, et en tournée dans toute la France pour les dernières dates de son spectacle Emmanuel. Emmanuel Payet est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
L'équipe est sauvage continue 2 heures d'une implacable compétition au service de votre culture G. Un seul de nos journalistes en compétition aura l'honneur de se coiffer tout à l'heure de la couronne de chroniqueur du jour. En attendant, ma complice Eva Rock, qui croyait qu'elle allait se la couler douce cette saison avec son statut hors compétition, va apprendre qu'avec moi, elle ne se la coulera jamais douce. Car désormais, chaque jour, peu après 16h30, elle porte sa croix. Un quiz qui l'oppose à l'invité dans un domaine où forcément l'invité la défonce. Vous êtes prête, Eva?
J'y vais, mais j'ai peur!
C'est là que vous êtes la meilleure.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue plus qu'une émission, un péplum. 4 journalistes prêts à tout pour soulever la couronne de chroniqueur du jour qui reviendra évidemment à celui qui aura délivré le meilleur papier sous l'œil de notre invité vedette, le comédien et humoriste Manu Payet, pour qui j'ai une tendresse que je qualifierais de générationnel. En effet, nous avons connu tous les deux une même jeunesse, loin des applis de rencontres et d'Internet. Une jeunesse que les moins de 35 ans ne peuvent pas connaître. Une jeunesse qui restera dans l'histoire comme celle dite des pages lingerie de la Redoute. Et je peux vous dire que comme Manu, j'ai grandi dans une famille sévère qui n'aimait pas que je m'isole trop longtemps avec la Redoute ou les Trois Suisses.
Poussin, c'est très vilain de jouer avec ton petit oiseau quand mamie est dans la chambre.
Toute une époque. Vous avez connu ça aussi, hein, Manu?
Ah bah j'en parle dans le spectacle, bien sûr que j'ai connu. C'est-à-dire que dans celui du printemps, il n'y avait pas les jouets.
Donc elle grillait tout de suite.
Il y avait quand même les pages lingerie. Et non, et ma mère ne comprenait toujours pas pourquoi on était content de le recevoir. Elle dit c'est pas la peine de sauter au plafond comme deux idiots. C'est celui du printemps, il n'y a pas les jouets. Je crois que vous êtes excités comme ça, les deux. Et mon frère, il allait d'abord aux toilettes faire du repérage, d'abord pour son grand frère. Et puis après, il ressortait avec le catalogue, avec son doigt dans sa page préférée. Il me le tendait. Page 330.
Avec cette voix chevrotante de l'ado. Toute une époque. Face à vous, Manu, un autre spécimen de ces années de la préhistoire numérique, Eva Rock, contre qui vous allez maintenant jouer. Voici. Qui veut gagner une friteuse Laurent Mariotte? Il y a des très très beaux cadeaux cette année qui sont mis en jeu sur Europe1.fr. Alors Manu, vous connaissez ce genre d'émission, des quiz, vous en avez connu beaucoup, mais je me permets d'attirer votre attention sur le fait que celui-ci est peut-être encore plus con que tous ceux que vous avez déjà connus.
Génial.
Il s'agit d'un quiz musical. Vous jouez de la guitare, vous chantez, vous vous appelez Payet. Du coup, on a fait un quiz, yeah ou Payet. Le principe est simple.
Si je dis que mon nom se prononce Payet, on est baisé. On peut
pas faire le... Je m'en doutais. Je vous donne un titre de musique, vous me dites yeah ou Payet si vous pensez que dans les paroles il y a yeah ou il y a Payet.
Ah ouais, d'accord.
Par exemple, si je vous dis yeah de Usher, il fallait dire
yeah.
Vous avez compris le
évidemment.
Principe.
Évidemment.
Manu Payet. Si je vous dis le titre, viens danser le twist de Johnny Hallyday, vous me dites yeah ou Payet.
Bah, je vais dire yeah.
On écoute en musique. Yeah. Et c'est la bonne réponse. Ah. Il est trop fort. Yeah. Oh oui, yeah. Ah oui, il le dit bien. Il est très beau, net et sans bavure. Eva Rock, si je vous dis ABC du groupe Jackson 5, vous me dites yeah ou Payet?
Je dirais non, Payet.
Vous dites Payet? Vous dites Payet?
Ouais.
D'accord, alors on écoute la réponse.
En musique. Il y a un petit yeah.
Bonne réponse.
Ah non, il n'y
a pas de yeah.
Non, pas de yeah.
Sachez-le, on a écouté le titre en entier pour vérifier qu'il n'y avait pas de yeah ailleurs dans la chanson, évidemment.
D'accord.
Évidemment. Manu Payet, si je vous dis le titre Rehab de Amy Winehouse, vous me dites yeah ou pas yeah?
Alors, Rehab, and I say
no.
Je vais dire yeah. Je vais dire no. Je vais dire Payet.
Payet, on écoute la réponse. Elle a dit yeah. On l'appelle Amy, qu'est-ce que c'est?
Merde, il y avait un yeah là.
Il n'y a plus une seule chanson sans yeah dans la musique américaine.
Oui, c'est vrai, c'est
et anglaise. Eva Rock, si je vous dis Lessons in Love du groupe Level 42, vous me dites yeah ou pas yeah?
Ah, mais alors elle ne me revient pas du tout la chanson.
Moi non plus, c'est une question.
Bah, je vais dire,
vous dites au hasard finalement.
Je vais dire pas yeah, comme ça on entend encore le nom de Manu.
Ah, très bien.
Oh, comme si je...
C'est du
bientôt. Ça fait un truc rajouté, c'est genre Pascal, tu t'es encore. T'as pas pu t'empêcher de nous le faire. C'est dingue, hein. On te dit pas hier et tu nous as placé son hier. Putain, et j'avais pas écouté le mix, et ben voilà, on s'est fait baiser. Ben, il est sorti.
C'est sorti il y a 33 ans et on l'a tous oublié. Manu Payet, si je vous dis Jaja de Aya Nakamura, vous me dites yeah ou payet?
Ah, déjà, je dis ja.
Non, c'est déjà bien.
Déjà, tu vois, je me mouille pas trop et je voudrais un point parce que je dis déjà. Il y en a. Alors, je vais dire yeah. Je vais dire yeah.
Vous dites yeah?
Ouais.
Réponse.
Pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça.
Il n'y a pas de yé dans Jaja.
Mauvaise réponse de Manu.
Anissette, ta chronique est en train de perdre des miles.
Non,
moi je te le dis,
parce qu'il va en malien, ça veut dire yé. C'est vrai?
Qu'est-ce qu'il veut dire?
Alors, je parle pas malien, mais heureusement, mais c'est un peu confus comme explication.
Il y a un brouille, là.
Mais je vous jure, là-bas au Mali, tout le monde dit Jaja pour dire yé. J'ai des amis maliens.
On vous aura mal renseigné, Anissé. Eva Rock, si je vous dis, c'est la dernière question qui va vous départager. Je ne sais même pas combien de points vous êtes, on s'en fout, mais ça va vous départager. Si je vous dis Don't Stop Me Now de Queen, vous me dites yé ou paillettes?
Moi, je le sais.
Having a good time, having a good time.
Non, je dis pas yé.
J'imagine le moment de solitude pour nos auditeurs qui entendent Eva Rock fredonner Queen. Vous dites
paillé.
Vous dites paillé.
Ouais.
On écoute. Il n'a pas pu s'empêcher, Freddy, de rajouter un petit yé au passage derrière Sky. Égalité parfaite entre nos deux concurrents. La friteuse Lauren Marriott sera divisée en deux. Elle ne servira plus à rien, mais en même temps, servait-elle déjà à quelque chose? Certainement pas. Merci à la générosité d'Europe 1. Nous fêtons avec lui les dernières de son spectacle Emmanuel en tournée dans toute la France et le 21 et 22 septembre à l'Olympia. Manu Payet avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
Eva Rock, Anne Le Gall, Anis Mbida sont à mes côtés. L'équipe est sauvage, se poursuit. Deux heures d'une pétaradante compétition entre le meilleur journaliste d'Europe 1, surtout aujourd'hui avec Anne Le Gall. Un seul sera couronné chroniqueur du jour sous l'œil de notre invité arbitre Manu Payet, qui, je le sais, adore notre émission. On peut le dire, Manu, vous êtes épaté.
Je suis ancien combattant, militant socialiste et bistrot. C'est de dire si j'ai entendu des conneries dans ma vie. Il est comme ça jamais.
Ah ben, c'est encourageant. Alors, à tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe sauvage, deux heures d'une compétition acharnée entre les meilleurs journalistes d'Europe 1. C'est à qui vous proposera la meilleure histoire, la meilleure info, sauf pour ceux qu'on appelle les planqués. Eva Rock, notre spécialiste média, et Olivier Pouls, notre chroniqueur gastronomique, que vous retrouvez tous les jours vers 6h moins le quart dans Délices in Extremis, votre recette bon plan de dernière minute, qui eux sont, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, hors compétition.
Parce qu'ils sont trop bons.
On est les meilleurs.
Oui, ça c'est vous qui le dites. Du coup, ça leur laisse un peu de temps. Olivier Pouls, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également rédacteur en chef à la Revue du Vin de France, et en cette qualité, je vous reçois ce matin parce qu'on est en pleine foire au vin et vous allez être notre guide. Alors, la grande distribution et les sites de vente en ligne proposent un large choix de bouteilles à prix réduit et il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Vous allez donc nous aider à décrypter les étiquettes. Tout d'abord, une question qu'on s'est tous posée. Que valent les médailles et les récompenses qui ornent les bouteilles de vin? Est-ce que c'est un bon critère de choix ou c'est du flan?
Franchement, ça ne vaut pas grand-chose.
Il y a quand même un jury qui se réunit, non?
Alors d'abord, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sortes de médailles. Je crois qu'il y en a près d'une centaine aujourd'hui de concours divers et variés, plus ou moins sérieux, plus ou moins ouverts à des bons producteurs. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que les producteurs se soumettent leur vin pour participer à ce type de concours. Donc qui soumet en général son vin? Ce sont ceux qui ont un peu plus de mal à le vendre que les autres. Les très grands noms, les très grands vignerons n'ont pas besoin de ces médailles.
D'accord, forcément des petits vins qui font ça.
Et souvent en plus, il faut payer pour accéder à ces concours. Et quand on paye, qu'est-ce qui se passe? Il peut y avoir pas jusqu'à des pots de vin, mais en tout cas, on donne assez facilement les médailles. Et puis après, il faut se poser la question, qui goûte ces vins? Qui compose les jurys?
Si ce n'est pas vous, ça n'a pas de valeur.
Exactement, j'allais vous le dire. Alors souvent, ce sont des jurys anonymes, on ne sait pas très bien qui c'est, ce sont des panels plus ou moins représentatifs, et ce ne sont pas forcément des experts.
Donc c'est n'importe quoi, on l'aura compris, je traduis. Est-ce qu'il y a des appellations dont il faut se méfier? Grand vin, vieille vigne par exemple, ça correspond à
ça? Ça ne veut rien dire. Légalement, ça ne veut rien dire. Grand vin, petit vin, moyen vin, ça ne veut rien dire. Vieille vigne, ce n'est pas un label qui est encadré, c'est-à-dire que vieille vigne, c'est quoi? C'est 15 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans, on n'en sait rien. C'est à l'appréciation du vigneron, donc ça ne veut pas dire grand-chose. En revanche, il y a une chose sur laquelle je voudrais insister, il faut se méfier du prix. Les vins trop peu chers cachent en général quelque chose. Alors soit ça cache une qualité qui n'est pas terrible, soit ça cache des pratiques économiques, et c'est un peu comme pour tout. Vous savez, aujourd'hui, les vignerons, on peut penser qu'ils sont tous très riches, mais ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de vignerons aujourd'hui qui ont du mal à joindre les bouts, et quand ils se font tordre par la grande distribution pour vendre par exemple, des Bordeaux à moins de 2 euros, il y a un truc qui ne va pas.
Et alors justement, à partir de quel prix on peut espérer avoir une bonne bouteille? Quelle est la gamme de prix que vous conseillez?
Mais si vous voulez rétribuer correctement le vigneron et faire en sorte qu'il puisse vivre de son travail, comme vous le feriez pour un producteur de lait, il faut mettre en France aux alentours de 5 euros pour une production de vin français. Voilà. En dessous, ça devient très compliqué de faire vivre le vigneron qui vend le vin. Donc à partir de 5 euros, on est sur quelque chose qui peut être équitable.
Le vin bio connaît de plus en plus de succès. Quels sont les labels fiables?
Alors, c'est très simple. Là, pour le coup, il y en a un. C'est AB, Agriculture Biologique. C'est le label de base. Mais c'est vrai qu'on se perd un petit peu dans les labels parce que vous avez AB, vous avez Déméter, c'est Biodynamie. Donc, c'est une espèce de bio plus, on va dire. Vous avez HVE, qui est haute valeur environnementale. Alors, c'est pas des vins bio, mais c'est des domaines qui ont pris conscience de l'intérêt de préserver la planète. Vous avez Terra Vitis. Vous en avez plein. C'est vrai que c'est assez difficile, mais en ce qui concerne le bio, le minimum, c'est AB, c'est un label européen.
Merci Olivier Pouls.
Et à votre santé.
Et toujours avec modération, évidemment, Olivier. Hein. Ne l'oublions jamais. Son spectacle est en tournée dans toute la France. Manu Payet est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, deux heures d'une sadique mais amusante compétition entre les meilleurs journalistes d'Europe 1. Qui vous livrera la meilleure histoire, la meilleure info dans quelques instants? Deux nouveaux concurrents avec qui on parlera des compagnies aériennes qui ont le blues. Et on répondra enfin à cette question que vous êtes nombreux à vous poser. Pourquoi tant de grands frères ou de grandes sœurs empêchent leurs petits frères de réussir? Manu Payet, vous avez un petit frère?
Oui.
Vous ne vous sentez pas concerné?
Ben non, mais là, vous me dites ça, je vais repartir pas bien.
Vous réfléchissez.
Oui.
On embrasse votre frère. À tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue 2 heures pour assouvir votre soif de connaissances tout en vous en payant une bonne tranche, comme on disait sous Giscard. Avant d'accueillir deux nouveaux compétiteurs, on salue Anne Le Gall et Anis Mbida. Anne, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
Pourquoi pas une petite raclette?
Bien sûr, mais n'oubliez pas vos médicaments, le docteur a dit tous les jours. Hein, c'est important de bien les prendre à heure fixe. Ah, tiens donc!
Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue. 2 heures d'une invraisemblable compétition opposant les meilleurs journalistes d'Europe 1. Un seul sera élu chroniqueur du jour, celui dont le sujet vous aura le plus subjugué. Vous et notre invité d'honneur aujourd'hui, c'est le comédien humoriste Manu Payet qui nous accompagne. C'est le moment ou jamais d'aller l'applaudir dans Emmanuel, son spectacle dont il joue actuellement les dernières partout en France. Manu avec qui on a tant en commun. On est tous les deux nés, loin de la métropole. Lui à Saint-Denis, sur l'île de la Réunion. Moi à Genève, en Suisse. Tous les deux, on a fait une carrière incroyable dans l'humour, surtout lui. Et puis, tous les deux, on a dû lutter contre un milieu familial hostile à notre vocation. Moi, quand je disais à mon père que je voulais monter à Paris faire de l'humour, il n'était pas partisan de la méthode Dolto.
Si tu continues sur cette pente, tu finiras comme un clochard drogué.
Raté, papa. Je suis pas clochard. Et vous, Manu? Je crois...
Attends, les sondages.
Touché. Mais vous aussi, au-delà de la plaisanterie, je crois que vous êtes né dans un milieu qui ne vous a pas forcément poussé à faire ce que vous faites aujourd'hui.
Ah oui,
loin
oui.
De là.
Ah oui, on a le même background, Mathieu. J'ai j'ai des parents très très sévères, très stricts, peu de place pour la fantaisie parce que voilà, effectivement, c'était pas la méthode Montessori non plus. Et du coup, je me suis un peu construit contre ça, contre cette sévérité. Et j'étais celui qui apportait la fantaisie à la maison et qui faisait marrer à table.
Et vous faisiez marrer, c'est vos parents?
Ça marchait? Oui, ils ont fini par rire.
Ah, ils ont fini. Donc c'était le public le plus dur à conquérir finalement. Une fois que vous aviez eux dans la poche.
Ah voilà, c'était un public dur à conquérir. C'est que moi j'ai entendu. Mais il nous saoule. Il est con, ce gamin. Il est con, ce gamin. C'est pas possible.
Ensemble, Manu Payet continue de parler de votre spectacle Emmanuel. Mais vous le savez, la compétition a ses lois que la promo ne connaît pas. Je vous présente deux nouveaux concurrents et j'ai envie de dire pas des moindres. À ma gauche, elle est la chef plénipotentiaire du service société d'Europe 1. Bonjour Ève Roger.
Bonjour.
Alors pour vous situer, Ève Roger, c'est comme l'Allemagne en foot dans les années 80. Vous pouvez jouer aussi bien que vous voulez, à la fin c'est toujours elle qui gagne. Hey, Ève, avec quel sujet allez-vous l'emporter une fois de plus aujourd'hui? Parce que c'est déjà écrit.
Non mais arrêtez, parce que sinon je vais pas gagner. Bon alors, mon sujet aujourd'hui c'est Haro sur les grands frères.
Mais c'est-à-dire?
Parce qu'ils empêchent les petits d'avoir
du
vocabulaire.
Mais vous avez des statistiques à l'appui?
Absolument, une étude très très sérieuse.
À vos côtés, Emmanuel, je vous présente...
Emmanuel, comment?
Oui, un autre. Emmanuel Dutheil, un autre chef, celui du service éco d'Europe 1. Un chef jadis extrêmement respecté de ses subordonnés. Mais maintenant, ils le regardent un peu différemment depuis qu'ils savent qu'il est dernier du championnat Europe 1. Pour filer la comparaison footballistique, Emmanuel Dutheil, c'est Dijon. Toujours dernier, jamais relégué. Mais la loose, c'est fini. Aujourd'hui, Emmanuel, vous rebondissez avec un sujet passionnant.
Non, moi j'ai décidé de faire peur à Manu Payet, mais j'en dis pas plus. Faut que je garde moins.
Ah oui, assez suspense. Quelle chronique préférez-vous? Laquelle aura la faveur de notre invité? Réponse peu avant 18h. Alors, Manu Payet, on fait ensemble les dernières représentations de votre One Man Emmanuel en tournée dans toute la France et à l'Olympia Eva.
Les 21 et 22 septembre.
Vous dites qu'à la base, vous rêviez d'être une rockstar. Mais de manière assez amusante, la révélation de votre vocation comique, elle est née lors d'un concert.
Oui, oui, ça a été une grande déception pour moi ce jour-là. Parce que c'est le patron d'une radio. Bah, c'était à l'époque, c'était Sébastien Follin. Alors, patron d'Énergie Réunion,
ouais.
Qui est venu me voir après un concert et qui me dit Hank, c'est cool, là, les jeunes et tout. Et voilà, moi, je suis patron d'une radio et tout. Et j'ai envie de. Tu te dirais de faire de la radio? Alors, moi, je dis bah, carrément, ouais, tu veux passer laquelle? Et là, et il m'a dit non,
alors,
en fait, pas ta musique, parce qu'en fait. T'es plus drôle entre les morceaux. Et là, j'y ai d'accord. Et puis, je me suis retrouvé animateur radio. Et j'avais même dit, alors moi, je vous préviens, parce que tout ce que vous passez, moi, je le passerai jamais, d'accord? Parce que moi, je suis un rockeur. Et bim, j'ai fait ma première émission de radio. Je vous jure que c'est vrai. Non, c'est
Pas loin, putain. Ouais. Première émission de radio, je... allez, on écoute tout de suite Mylène Farmer. Et là, je me suis dit, putain, je suis un vendu.
Vous l'avez tous vu, lascif et dénudé sur une colonne Maurice dans le fauteuil d'Emmanuel. Mais qui est pour vous Manu Payet? On vous a posé la question dans la rue. Voici Manu. Non pas un micro-trottoir, toujours monté de sorte à faire plaisir à l'invité, mais un micro-trop-trash. C'est comme un micro-trottoir, mais sans montage. On a tout laissé.
Type réunionnais, petit 1m70.
Il a un sourire ravageur. C'est quelqu'un que j'aimerais connaître, ouais.
Bah, il raconte des blagues, et c'est un acteur aussi. Il a une bonne bouille.
Il surjoue pas, et il joue toujours juste.
Je l'ai vu dans Tout ce qui brille, il était excellent.
Ah, il joue dans ça ? Il joue le rôle de... Tu vois la fille qui est un peu superficielle, qui veut rentrer dans le...
C'est celle avec les cheveux frisés ?
Non, l'autre. Celle avec les cheveux raides. En gros, il joue son petit copain, genre.
Ah, okay.
Voilà. Et elle tombe un peu amoureuse d'un autre.
Il est beaucoup plus vieux qu'elle.
Ouais, un peu, ouais.
Okay. Ah, c'est non, génial, on a tout laissé. Hein.
C'est génial.
Emmanuel, c'est le titre de son spectacle en tournée dans toute la France, le 21 et 22 septembre à l'Olympia. Manu Payet est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
L'équipe est sauvage continue sur Europe 1 avec Eva Rock, Eve Roger, Emmanuel Duteil. Deux heures pour rire et découvrir via une compétition extrêmement relevée entre les meilleurs journalistes d'Europe 1. Deux heures également pour découvrir un invité sous un autre jour. Grâce, je dirais modestement, à la puissance d'interviews pas du tout alambiquées, avec des questions pas du tout trop longues qui incitent les vedettes à se livrer pleinement et sur la longueur, comme Cédric Lapiche hier. Ils vivent dans Paris, sont un peu dépressifs, hein, on peut le dire. Lui peine à faire une rencontre amoureuse. Elle multiplie, au contraire, les rencontres foireuses sur les applis. C'est une belle histoire, mais c'est surtout, comme toujours avec vous, l'analyse d'une époque.
Oui.
Manu Payet sera-t-il aussi loquace que Clapiche? Mes questions seront-elles aussi imbitables? A tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage continue avec Eva Rock, Emmanuel Duteil. Deux heures d'un combat sanglant entre les meilleurs journalistes d'Europe 1. Qui sera élu tout à l'heure chroniqueur du jour? Tout simplement celui ou celle qui, à vos yeux, aura proposé le meilleur sujet, la meilleure info, celle dont vous aurez envie de parler ce soir à table avec vos proches, et celui aussi qui aura tapé dans l'œil de notre invité. Eve Roger, je vous présente Manu Payet, que vous connaissez déjà un peu par affiche interposée.
Ah oui, d'une certaine façon, vous êtes très généreux avec votre corps.
Il l'est, indéniablement, Eve. Eve, on va vous écouter. Je rappelle juste en préambule le contexte, hein, ce que les autres journalistes ont appelé la malédiction Roger. Quel que soit le sujet d'Eve, à la fin, l'invité hésite, il hésite, et puis finit par déclarer, comme Éric-Emmanuel Schmitt.
Mais j'avoue que je vais donner mon point à Eve Roger.
Yes !
Eve, c'est la malédiction Roger. Ah ouais. Va-t-elle encore se vérifier?
Moi, je vais plus venir à l'émission avec elle.
Eve, c'est à vous.
Non, mais arrêtez, parce qu'en plus, je vais décevoir notre invité là. Non, là, je vais vous parler d'une étude très, très sérieuse, tellement sérieuse que c'est le HESS, le CNRS, l'INSERM et Normal Sup qui sont partis d'un constat qui est déjà contre-intuitif, qui disait quand un enfant est élevé dans une famille nombreuse, avec plein de frères et sœurs, on imagine qu'il apprend beaucoup plus vite à parler, puisqu'il y a les frères, les sœurs, ils sont plus stimulés, interaction. Et bien, en fait, déjà ça, c'est faux. Parce qu'en fait, qui apprend à parler aux enfants? C'est les parents. Et donc, dans une famille nombreuse, les parents, ils sont très, très occupés. Mmh. Et donc, l'enfant apprend moins vite. Alors, les chercheurs se sont dit après, OK, il ne faut pas une famille nombreuse, mais qu'est-ce qui est de pire entre un grand frère et une grande sœur? Et bien là, le résultat est net. Il vaut mieux avoir une grande sœur qu'un grand frère, parce que le grand frère, eh ben, il prend toute la place. C'est bien ça l'explication. C'est-à-dire que le grand frère, il est tellement dans la compète qu'il empêche les autres enfants d'avoir accès aux parents.
Manu Payet aura un droit de réponse à la fin de cette chronique, lui-même étant grand frère, je le précise. Ici, tout le monde s'exprime, toutes les voix.
Donc le grand frère aime la compète, et pourquoi il faut mieux une grande sœur? Parce que la grande sœur, eh ben, en fait, elle est beaucoup plus sympa. Elle s'intéresse au petit qui vient de naître, elle lui parle, et ce que dit l'étude, c'est qu'elle permet de compenser les parents qui sont occupés ailleurs à s'occuper des autres frères et sœurs. Et donc, quand on a fait ce constat-là, quand on est un enfant avec un grand frère, je peux vous dire que c'est un choc. Je vais vous faire écouter l'interview faite par un journaliste d'Europe 1, il s'appelle Justin Morin, et c'est lui qui a fait l'interview du chercheur, et écoutez sa réaction.
Bon, mais alors moi, j'ai grandi avec deux grands frères. C'est-à-dire que j'ai été en retard, potentiellement.
Bah, potentiellement, vous avez votre langage s'est développé avec quelques mois de retard par rapport à ce que vous auriez pu atteindre si vous n'aviez pas eu de grand frère.
C'est terrible.
Voilà. Donc, alors, tous les grands frères pour agir comme ça. Alors, je suis allée regarder dans votre biographie, Manu Payet, effectivement, j'ai découvert que vous aviez un petit frère. Mmh. Et donc, j'ai fait une recherche de son pour savoir comment parlait votre petit frère, pour savoir si, effectivement, il avait un retard de vocabulaire, de syntaxe ou de langage. Écoutez-le.
Pendant la célébration elle-même, il y aura un soutien familial, ma petite sœur y sera, et nous, on le soutiendra avec tout notre amour. Il m'a pas parlé directement de ses craintes. Je crois même que parfois c'est peut-être moi qui ai plus de craintes que lui. Les craintes, c'est lié au jugement.
Nicolas Payet, c'est votre frère. Ouais. Ben Nicolas Payet, il a beaucoup de vocabulaire.
Ah oui, il a aucun problème.
Il a aucun retard.
Donc, vous tirez vous-même une balle dans le pied,
pas
en fait.
Pas du tout, parce que je voulais conclure là-dessus, c'est-à-dire que le retard, il est de 2 mois. Ah oui. Alors, on a fait l'étude à 2 ans, à 3 ans, à 5 ans, mais on ne sait pas si on finit par récupérer ces 2 mois de retard, de syntaxe, de vocabulaire et d'apprentissage. En écoutant votre frère, on peut imaginer quand même qu'il a rattrapé son retard.
C'est gentil, merci pour lui.
Son petit frère Nicolas, merci. En tout cas, nous assure que Manu ne s'est jamais opposé à ses réussites et ne l'a jamais empêché de progresser. Interrogé par la rédaction d'Europe 1, il nous a juste dit « Vous voyez le demi-frère d'Hitler dans Papy fait de la résistance ?» Bah pareil.
Au début, il a tenté de me séquestrer, mais en vieillissant, il était venu plus coulant.
Les 3 points de la victoire iront-ils, comme d'habitude, à Ève Roger ? Le jugement de Manu Payet tombera juste avant 18h.
Europe 1.
L'équipe est sauvage se poursuit avec ma complice Eva Rock. Eva qui, vous le savez, est un peu ma grande sœur, parfois ma nounou, et qui m'aide à garder les pieds sur terre alors qu'au moment où j'hérite enfin d'une grande émission, j'ai tendance, c'est vrai, à prendre un peu le melon, à interpréter chaque petit geste de mes assistants comme la preuve de mon autorité, comme hier par exemple.
Si je peux avoir un petit verre d'eau, je veux bien un petit verre d'eau. Putain, c'est incroyable, elle s'est levée avant que je dise le truc. Mais c'est incroyable, elle était déjà debout alors que j'avais pas fini.
Mais c'était peut-être pas pour toi.
Laisse-moi rêver que j'ai du charisme. Nom de Dieu. À suivre. Les déboires d'Aigle Azur pourraient être l'arbre qui cache la forêt. Mais pourquoi tant de compagnies aériennes vont-elles si mal? Peut-on être sûr en réservant un vol aujourd'hui que la compagnie existera toujours au moment du départ? A tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, la première émission non communiste à désigner chaque jour le plus méritant des journalistes. Un seul sera élu chroniqueur du jour à l'issue d'un processus méritocratique presque transparent, puisque ma voix compte pour 1, la vôtre pour 2 et celle de notre invité d'honneur pour 3. Des magouilles sont possibles, hein, je vous rassure, de manière tout à fait marginale. Notre invité Manu Payet qui me précise justement durant la pub qu'il acceptait le liquide mais aussi le sans contact. Prochain sujet en compétition les amis, pourquoi tant de compagnies aériennes mettent-elles la clé sous la porte? Peut-on encore réserver des billets des mois à l'avance en misant sur le fait que la compagnie existera toujours au moment du vol? On y vient, mais d'abord voici Madonna en toute simplicité. Secret sur Europe.
T'as fait un cadrage de fou.
Un cadrage? La musique? Ah oui d'accord, oui. Mais ça j'y arrive que par le hasard quoi.
Enfin, j'ai toujours pas compris moi.
Bah si, quand tu... Je comprends ce qu'il veut dire. C'est...
Vas-y, remets le morceau.
Remets la musique.
Europe 1, avec vous jusqu'à 18h, voici toute l'équipe de Mathieu Noël et Madonna.
Eh ouais, c'est un métier. C'est ça le cadrage. Alors, bon bah, je m'entraînerai.
C'est ça le cadrage. Une fois, j'ai fait une radio à Genève et le mec me reçoit, tu vois, un peu défiant. Un peu, tu vois, en plus c'était une matinale et tout. 7h du mat, j'arrive. Ouais, bonjour, hein. Comme ça, je suis là ce coup-là. J'ai dit, ça vous fait chier que je sois là. Moi, je peux rentrer à l'hôtel, hein, c'est à pied. Donc, il me fait, non, pas du tout. Non, c'est pas. Il me fait ça, le gars, tu vois. Un peu défiant comme Dutail, là. Et le mec me dit, ok, donc machin, première question, deuxième question, c'est un peu nul. Je sens qu'il en a rien à foutre des réponses, tout ça. Et je me dis, mais où est-ce qu'il veut aller, ce gars-là? Et en fait, le mec m'a provoqué un concours de cadrage. Il m'a dit, donc voilà, donc on fait de la radio tous les deux, machin, vous avez fait de la radio. Il paraît que monsieur sait faire les cadrages et tout ça.
Non,
dit, ok, donc il y a 3 intros à cadrer, moi j'encadre 3, vous encadrez 3, génial. Et après on verra qui est... Le gars me fait ça. Et on est seul dans le studio, je te le jure. Et je le regarde, je fais, mais mec, c'est incroyable.
Mais, même
quand
pas
même.
Mais il aurait pu le faire, tu vois, de manière genre en déconnant. C'est un jeu.
Ben non, parce qu'il y avait un petit truc, tu sais, l'animateur radio, le cadrage, ouais, attention. Et ben vous savez quoi?
Vous avez gagné.
J'ai gagné. J'ai gagné.
Et moi je viens de découvrir ce que c'était que le cadrage, alors que j'ai quand même pas... Secret, c'était Madonna sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez toujours l'équipe est sauvage, le premier championnat journalistique du monde. Enfin, je n'ai pas vérifié, mais je crois. Chaque après-midi, une nouvelle journée de Ligue Europe 1. Les journalistes de la rédaction se mettent sur la gueule pour vous proposer le meilleur sujet, la meilleure histoire, un seul gagnant, votre culture G. À mes côtés, Eva Rock, Ève Roger, Emmanuel Dutheil, notre invité d'honneur, Manu Payet pour les dernières de son hilarant spectacle. Emmanuel en tournée dans toute la France, on continue d'en parler ensemble. Mais avant le retour de la compétition, c'est le moment de notre décrochage régional. Et aujourd'hui, avec cette grisaille parisienne, j'ai bien envie de décrocher dans le sud, moi.
Régional géographique.
On prend la clé des champs cet après-midi direction le Var, et plus exactement Roquebrune-sur-Argent, où l'on retrouve notre correspondant Fred Frédéric Michel. Bonjour Frédéric.
Bonjour à toute l'équipe, bonjour à tous.
C'est la saison des cueillettes et vous avez testé pour nous une cueillette un peu particulière, la cueillette du rocher. Alors, on ne ramasse pas des cailloux, mais des légumes et fruits 100% bio. Voilà 14 ans que le concept a été développé par deux passionnés qui proposent donc un circuit court, convivial et ludique du champ aux assiettes, pour simplifier, c'est ça ?
Effectivement, et sur ce lieu unique, trois possibilités. Faire vos achats dans la boutique, une cabane en bois située au milieu des champs. Chaque jour au petit matin, Franck et Jean-François et leurs saisonniers récoltent pour vous de belles tomates, des courgettes, des melons, des poivrons, des piments, des cuisses de poulet. C'est une variété d'oignons, je ne sais pas si vous le saviez.
Faut pas se tromper.
Autre possibilité, prendre un petit café ou un petit verre, selon l'instant, une humeur.
Ça Mathieu plus, moi, oui.
Voilà, je sais que vous, c'est rosé à toute heure, avec modération, évidemment. Et vous allez voir, les patrons sont très sympas et le cadre bucolique. Mais il y a une troisième possibilité, faire votre cueillette vous-même, choisir vos produits. Chaque jour, ils sont notés sur un tableau. Et Franck et Jean-François, l'initiative du projet, sont là pour vous guider au milieu de leurs 3 hectares de plantation. Un projet né, vous l'avez dit, il y a 14 ans, avec une idée simple, rapprocher le consommateur de la terre. Franck Ferré.
De montrer le jardin brut dans son jus et de permettre de faire toutes les cultures et toutes les planches de culture pour qu'elles soient accessibles par des amateurs. C'était le jusqu'au boutisme pour que vraiment les personnes soient rassurées et convaincues de l'origine, de la qualité du produit.
Alors vous avez mis les mains dans la terre, Frédéric ?
Oui, mais d'abord je me suis équipé avec un panier, un sécateur et surtout j'ai bien écouté les conseils de Franck.
On va retrouver les produits facilement grâce à des petits panneaux signalétiques qu'on a mis partout sur le terrain. Donc voilà, sur ces petits panneaux, on a mis la variété, comment on cueille. On conseille à tout le monde de bien avancer dans les rangs pour trouver les plus beaux spécimens. On a mis l'illustration et l'outil nécessaire. Ça va être soit un sécateur, soit la main. Quand c'est le sécateur, c'est pour les parents. Quand c'est la main, c'est accessible aux enfants.
Alors en vérité, non, j'ai fait un peu n'importe quoi dès le début. J'ai arraché à la main là où il fallait couper au sécateur. Et c'est dommage car vous abîmez les plantations. Mais depuis, vraiment, je vous l'assure, j'ai progressé car je suis vraiment tombé amoureux de ce lieu. C'est reposant. Et si vous aimez cuisiner, les produits sont juste sublimes. Et si vous respectez les conseils, c'est vraiment facile. Cerise sur le gâteau, si vous avez des petits monstres à table, les enfants mangent plus facilement des produits qu'ils ont cueillis eux-mêmes quand ils voient que la salade ou les petits pois ne poussent pas avec l'emballage plastique autour et qu'ils ont mis les mains dans la terre. D'ailleurs, cette agriculture ultra raisonnée fait de plus en plus d'adeptes et ce n'est pas plus cher que d'aller au marché ou au supermarché.
Merci Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 à Nice. La cueillette du rocher, c'est à Roquebrune-sur-Argent et jusqu'à la fin du mois, c'est ouvert tous les week-ends. Et pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur leur site internet fermedurocher.fr. Mais justement, c'est parfait vu que Manu Payet est en spectacle à Toulon. C'est pas très loin,
oui, c'est pas loin,
comme
c'est
ça,
bien.
Vous combinez cueillette de fruits et légumes et spectacle. Emmanuel, c'est le titre de son dernier spectacle. Plus que quelques semaines pour l'applaudir dans toute la France. Et à l'Olympia, les 21 et 22 septembre, le truculent et sensible Manu Payet est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre dans l'équipe sauvage, ce championnat aussi cocasse que sadique qui oppose désormais chaque après-midi les meilleurs journalistes d'Europe 1. On va parler de voyages en avion et ça, les voyages en avion, Manu Payet adore.
Maman, j'ai peur, je meurs d'angoisse, je cours au cinéma d'Europe 1.
Bon, restez là Manu, c'est con, c'est dans la tête la peur de l'avion. Non, le problème c'est que Aigle Azur n'est pas la seule compagnie à avoir des difficultés à laisser des voyageurs sur le carreau. Les cas se multiplient, alors qu'est-ce qui cloche dans le secteur aérien ? Emmanuel Dutheil a enquêté, à tout de suite.
L'équipe sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
L'équipe sauvage continue avec la facétieuse Eva Roque, le revanchard Emmanuel Dutheil et la toute puissante Ève Roger. Ça ressemble à un western spaghetti et de fait c'en est un. 2 heures d'un combat impitoyable entre des journalistes devenus les meilleurs ennemis du monde. Les stylobiques ont remplacé les colts, mais le danger est là à chaque papier. Qui restera debout à l'issue du deuxième duel ? Ève Roger pour son sujet sur l'influence néfaste des grands frères sur leurs cadets ou Emmanuel Dutheil pour son enquête sur les déboires des compagnies aériennes ? Manu Payet jouera ça à la roulette russe en fin d'émission. Manu Payet, ensemble cet après-midi, on fête les dernières deux dates de votre spectacle. Tout voilà, à l'heure,
vous allez recevoir.
Mais oui.
Vous pouvez toujours nous faire confiance
tu
là-dessus.
Sais, vous disiez Manu tout Payet. À l'heure, Mathieu, qu'il y avait une vraie compète qui s'était installée parmi les chroniqueurs chez vous, les journalistes. Mais je constate à quel point c'est vrai. Parce que. Non, mais c'est dingue. Alors, depuis qu'elle a fini sa chronique, Ève, elle a une autre position. Elle est complètement. On dirait qu'elle est sur un transat sur une plage et qu'elle attend un mojito. Non, mais elle est super détendue. Dutheil à côté, ça va plus du tout. Parce que lui, il va la faire dans 2 secondes. Ça ne va plus du tout. L'ambiance dans ce studio n'est pas du tout Charlie.
Ah non, pas du tout. Là, c'est la guerre de tous contre tous. Dans le spectacle, Manu Payet, vous parlez du couple et vous avez une astuce qui est assez maligne pour le sauver et le faire durer. Regardez une série. Vous dites, une femme ne partira pas avant la fin d'une série bien foutue avec plein d'épisodes. Elle ne veut pas uniquement connaître le dénouement de l'histoire. Elle veut savoir si elle avait raison quant à ce qu'elle avait prédit. C'est très, très bien vu. C'est du vécu.
Bah, carrément. Moi, quand une série policière démarre, ma femme, elle est au FBI. Elle bosse là-bas avec eux. Un jour, les acteurs ils vont se retourner depuis la télé, on va dire on peut bosser, ouais! Non, parce qu'elle
a toujours une théorie.
Non, mais ce qui est fou, c'est qu'elle a toujours raison. C'est ça qui est dingue. Et c'est ça qui ne nous aide pas, nous les gars.
Ça, c'est sûr.
Tu vois, dans une période un peu médiocre pour nous, et notre statut de pauvre petit bonhomme qu'on est, qu'on essaie de rester, tu vois, malgré tout, elle trouve la fin de la série à chaque fois. Ouais. Ok, d'accord, j'ai compris, c'est la sœur. Et c'est la sœur!
Ah, elles nous angoissent avec leur intelligence. Le problème avec les séries, mon cher Manu Payet, c'est que c'est addictif et qu'il y en a tellement qu'on ne sait parfois plus où donner de la tête. Saviez-vous, Manu, que selon une étude de l'université d'Oxford, on perd en moyenne désormais 17 minutes chaque soir devant l'écran d'accueil de Netflix pour juste choisir la série dans cet océan. Mais dans cet océan, il y a maintenant Eva Rock. Voici 17 minutes de gagner. Eva, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir?
Alors là, vous allez être content parce que votre femme, vous l'avez pour vous pendant très longtemps. Parce que ce soir débute sur OCS, la saison 3 d'une série américaine étonnante. Et je vous préviens tout de suite, interdite aux moins de 16 ans. Ça s'appelle The Deuce. Et tout démarre en 1971 à New York. The Deuce, c'est le nom d'une artère entre Broadway et la 8e avenue. C'est une avenue très fréquentée, mais pas franchement fréquentable dans ces années-là. Prostitution, drogue, mafia en tout genre, avec des Macs ultra puissants.
Il y avait aussi un gars un peu hippie dans le genre... Richie.
Avec Gentle Richie, c'est cool, mais c'est pas avec lui que tu gagneras ta croûte.
T'es avec qui?
Tiffany et moi, on est avec Rodney.
Et toi, pour qui tu roules? Il est où ton Mac?
Pas de Mac, y'a que moi.
Pas de Mac? Et ça marche comment?
Faut bosser un peu plus dur, faire un peu plus attention. Y a des clients qui veulent te voler ton blé, des Macs qui te mettent régulièrement la pression. Ça va, je m'en sors.
Moi, il me faut un Mac, sinon j'ai tendance à être fainéante.
Alors dans ce décor...
Attendez, vous m'isolerez ce son, s'il vous plaît, pour le prochain son des Varocs.
Mais oui, dans ce décor, il y a deux frères, des jumeaux, Vince et Frankie, qui tentent de faire affaire. Et en fait, la série raconte leur destin, celui de deux garçons et d'une prostituée qui s'appelle Candy, et qui comprennent très vite l'intérêt que représente l'industrie pornographique naissante. Les premiers films, très cheap et sans son, aux productions à budget plus important, The Deuce raconte aussi l'essor de ce cinéma jusqu'au milieu des années 80. C'est une série qui est très très bien réalisée. Alors c'est un peu trash. Vraiment, encore une fois,
pas avec les enfants.
Elle a le mérite aussi de raconter l'Amérique de ces décennies. Et puis alors, autre atout de taille, James Franco. James Franco
calmez-vous,
qui interprète
Eva,
les deux
calmez-vous.
Frères. Et rien que pour James Franco, vous pouvez regarder.
Ah, il fait les deux frères?
Il fait les deux frères et il est absolument magnifique.
Pourtant, il a un frère.
Et oui.
Hop là voilà. Allez, bim, on a bondi sur la chronique là-bas.
Ils sont jumeaux. Égalité peut-être, ah, oui. Bon. Et puis tendez l'oreille, surtout la bande originale est parfaite. Ça s'appelle The Deuce et c'est à voir sur OCS.
Merci Eva. Emballer, c'est peser 17 minutes de
Europe 1.
L'équipe est sauvage entre dans sa dernière ligne droite. Qui l'emportera dans cette folle compétition opposant les meilleurs journalistes d'Europe 1? L'attention monte d'un cran. Surtout pour notre invité d'honneur Manu Payet, puisque nous allons maintenant parler de voyage en avion. Or, Manu est phobique de l'avion, certainement marqué au fer rouge comme toute une génération par le film « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» et ses répliques rétrospectivement en borderline.
Dis donc, Joey, tu avais déjà vu un cockpit?
Non, monsieur, c'est la première fois que je prends l'avion.
Et tu as déjà vu un monsieur tout nu?
Come fly with me. Mais c'était une autre époque, à tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue. Deux heures d'une lutte si bordélique qu'en comparaison, les combats de boue de Fort Boyard vous paraîtront bien organisés. Chaque après-midi, quatre journalistes de la rédaction s'affrontent pour le titre de chroniqueur du jour, sous l'œil complice mais torve de notre invité arbitre. Aujourd'hui, Manu Payet, actuellement tourné pour les dernières de son spectacle. Emmanuel, il sera notamment à l'Olympia du 21 au 22 septembre. Et Manu, je crois qu'il y a un truc que vous adorez dans la vie, c'est prendre l'avion. Ça, c'est vraiment un kiff, un gros kiff pour vous. Hein.
Ah non, ça c'est difficile, ouais, je suis pas très fan.
Cette peur de l'avion, on sait d'où elle vient, on l'a dit, elle est commune à tous les enfants des années 80 qui ont grandi avec leur rediffusion d'un nanar culte.
Profitez agréablement de votre voyage.
À propos, y aurait-il une personne à bord qui aurait son brevet de pilote?
Eux aussi ont hurlé, mais parce que leur avion était cloué au sol, les clients de Aigle Azur, une compagnie en grande difficulté, et c'est loin d'être la seule, Emmanuel Duteil. Hein.
Oui, effectivement. Alors déjà, Eve Roger, lors de la dernière émission, m'a dit « Tes chroniques éco sont chiantes, donc essaye de rendre ça un peu plus grand public. » Donc c'est mon défi du jour. Donc déjà, je vais essayer de faire de l'éco pas chiante, parce que moi, je ne suis pas humoristique, hein, je ne suis pas dans l'humour, je suis dans l'économie. A priori, ça ne rime pas
avec blague. Et surtout pour les gens qui se sont effectivement retrouvés bloqués sur le tarmac, ouais. Parce que des milliers de personnes se sont retrouvées bloquées, que ce soit au Liban, que ce soit en Algérie, dans les principales destinations qu'ils avaient. Ce qui est aussi très compliqué, c'est que tous ceux qui avaient acheté des billets qui allaient au-delà du moment où les avions ont été cloués au sol, ces billets sont tout simplement perdu. Il n'y a pas de remboursement possible puisque la compagnie n'a plus d'argent et on ne commence pas par rembourser les clients, ce qui peut paraître complètement étonnant. Après, ce qui est intéressant au travers de cet exemple d'Aigle Azur, qui est un exemple bien évidemment qui n'est pas drôle, c'est que quand on regarde les compagnies aériennes, aujourd'hui, il y en a un paquet qui ne vont pas très très bien. On a par exemple Norwegian, dont on avait beaucoup parlé ces derniers mois, puisqu'ils avaient proposé des vols à prix complètement cassé vers les États-Unis. Bah, ça ne marche pas. Du coup, ils n'achètent pas tous les avions qu'ils avaient prévus. Il y a eu même des faillites. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais une compagnie islandaise qui avait des avions roses qui étaient assez jolis, qui s'appelait UAIR. Ouais. Alors, je ne sais jamais comment on la prononce. On dit
Moi, je disais waouh. Wow, mais bon, wow, wow, il y a peut-être wow, que moi wow, qui dis ça comme
alors,
ça.
Elle va peut-être décoller un petit peu du côté du mois d'octobre. On avait eu également l'allemande Germania qui s'était, elle aussi, cloué au sol.
Mais alors pourquoi Emmanuel ça va pas fort alors qu'on voyage un peu partout dans le monde de plus en plus finalement ?
Ouais, on voyage effectivement de plus en plus, mais vous vous rendez sûrement tous compte, on paye de moins en moins cher nos billets d'avion. Donc les compagnies doivent réussir à nous faire et à faire voler au meilleur tarif aujourd'hui.
Manu me disait hors antenne que pour les Maldives en business ça restait quand même assez cher.
Si on prend l'exemple du Paris-New York, je sais pas si vous avez l'occasion de temps en temps de le prendre, il y a ne serait-ce que ça 5-6 ans, c'était un bras d'aller aux États-Unis. C'était environ 800 000 euros quand on avait déjà une bonne affaire. Maintenant, avec des compagnies comme Level, comme Norwegian, vous, 300, 350, 400 euros, vous pouvez trouver sans aucun souci un aller-retour à New York. Si vous ne voulez pas aller aussi loin, parce que comme Manu Payet, vous avez peur de l'avion et donc plus c'est court, mieux c'est, vous voulez aller à Marrakech, là aussi, 60, 70 euros, 80 euros, vous trouvez sans problème un vol. Et ça, ça pose un énorme problème parce que si on n'est pas dans un énorme groupe où on arrive du coup à faire de grosses économies, on n'y arrive pas. Regardez par exemple, l'un des plus gros groupes aujourd'hui dans l'aérien regroupe British Airways, Vueling, Iberia, l'irlandaise également, Aer Lingus, et la petite dernière du groupe, Level. Donc, il y a besoin de ça. Et si ça ne va pas, par exemple, pour une compagnie comme Aigle Azur, alors il y a eu des petits problèmes de stratégie, mais aussi, aujourd'hui, elle est trop petite. Donc, pour s'en sortir et proposer de tels tarifs, aujourd'hui, être extrêmement gros et réussir à continuer de grossir. C'est pour ça qu'Air France s'intéresse au dossier Aigle Azur.
Mais Norwegian, ils sont gros, par exemple.
Oui, mais alors ils sont allés sur un marché extrêmement concurrentiel qui coûte très cher, donc ce qu'on appelle le vol transatlantique, le Paris-New York. Ils ont acheté énormément d'avions pour ça, il faut les remplir. Et le problème, c'est que quand vous les remplissez avec des gens qui payent 300, 350 euros et qui ne prennent aucun service additif, parce que ne prennent pas de valise en soute, ne prennent pas de repas.
Mais ils auraient pu y penser avant, leur modèle économique. C'est ça qui paraît fou, vu les investissements.
Ils n'avaient peut-être pas tout à fait prévu que la concurrence serait extrêmement forte. Parce que même si vous regardez sur Air France aujourd'hui, si vous décidez de partir sans bagages, vous avez des tarifs qui sont assez concurrentiels.
Avec Manu, on va souvent à New York sans bagages. Juste pour aller-retour, un peu de chauffing sur la 5e.
C'est le coup de tête.
C'est le coup de tête.
C'était mieux que la dernière fois, Evroger, c'était moins cher.
C'est bien, mais à un moment, quand même.
Elle est odieuse. Evroger est odieuse. Mais c'est pour ça aussi qu'on l'adore.
C'est Game of Thrones, cette émission.
Qui sera élu chroniqueur du jour? La réponse ne va plus tarder. En attendant, chers auditeurs, direction Billet Réduc pour réserver d'urgence l'une des dernières dates de son spectacle Emmanuel, dont l'affiche sexy vous a déjà mis l'eau à la bouche lorsque vous attendiez le bus. Manu Payet passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
Vous écoutez l'équipe sauvage. Chaque après-midi, les meilleurs journalistes d'Europe 1 se tirent la bourre au service de votre culture G et certains pensent même à votre dîner. En effet, on commence à vous connaître. À tous les coups, vous avez encore oublié de faire les courses pour ce soir.
Ah non! Que Dieu de bordel de merde!
Ne soyez pas grossier pour autant, ça vous ressemble si peu, chers auditeurs. D'autant que tout va bien, notre rubrique Délice in Extremis va une fois de plus vous sauver la mise avec une recette de dernière minute. A tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue. 2 heures d'allégresse informative et de conseils futés. Par exemple, que préparer ce soir pour le dîner sans flinguer votre budget? Notre expert Olivier Pouls vous explique comment concocter un plat gagnant pour moins de 10 euros pour deux. Eva, une idée?
Les pizzas.
Non, pas les pizzas, Eva. Un vrai plat, on y vient. Mais en attendant, au moment de lancer la musique, je tremble un peu, je crois que je ne suis pas à la hauteur. Il faut cadrer la musique en radio quand vous la lancez. Moi, je ne sais pas faire. Heureusement, nous avons avec nous un professionnel aujourd'hui, Manu Payet. C'est vous qui allez lancer, Rose.
Comme c'est dangereux, comme c'est dangereux. J'ai hâte d'entendre la recette d'Olivier, moi. Restez avec nous. On écoute Rose. Quel est le titre de la chanson ?
L'arme à paillettes.
Sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage continue avec notre invité d'honneur, Manu Payet. Il faut vous dépêcher si vous voulez le voir sur scène, puisque ce sont les dernières de son spectacle.
Emmanuel, go !
Emmanuel, toujours plus belle. On rappelle ces dates, les Varrocks, s'il vous plaît.
Ah, vous serez en tournée au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de décembre, partout en France, évidemment, le 21 et 22 septembre à l'Olympia à Paris, ce soir à Versailles, Toulon du 12 au 14, du 18 et 19 à Nantes. Et puis voilà, toutes les dates, vous les retrouverez sur notre compte Twitter, mais aussi sur les sites internet, le vôtre, Manu Payet, et le nôtre, europe1.fr.
Mon cher Manu, merci. À l'heure où beaucoup de nos auditeurs sont sur le chemin du retour et qu'ils réalisent brusquement qu'ils ont complètement oublié de passer faire les courses pour le dîner, j'aimerais vous présenter un personnage aussi pittoresque qu'utile. Il est un peu notre sauveur tous les jours vers 6h moins le quart. Sa spécialité, vous allez la deviner facilement. En effet, lorsque vous entendez quelqu'un s'exclamer...
Vous les fouettez assez violemment, on va dire, avec le sucre.
C'est soit que vous êtes dans une soirée sadomaso dans la cave d'une maison de campagne bourguignonne, soit, et vu l'heure, c'est quand même plus probable, qu'on accueille notre expert en gastronomie de crise pour Délices in Extremis. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Mathieu, bonjour Manu Payet, bonjour toute l'équipe.
Alors, bonjour Olivier.
Je vous ai confié une nouvelle mission. Chaque jour, une recette facile de dernière minute et à moins de 10€ pour deux personnes.
Oui, alors là, je vous vois venir. Vous
ça
dites,
va être compliqué.
Ça va encore finir avec des pizzas ou des tacos, cette
bah
affaire-là.
Oui.
Eh bien non. Eh bien non, on va travailler un produit saison, c'est le cèpe.
Le cèpe, c'est cher.
Bah, c'est vrai que c'est le début, c'est un peu cher, mais en fait, il n'en faut pas tant que ça.
Ah.
J'ai vu les premiers cèpes au marché la semaine dernière, ça tournait autour de 30€ le kilo. Pour respecter votre deal, on va en prendre 200g à peu près pour 4 personnes. Franchement, 50g de cèpe cuisinés comme je vais le faire, vous les sentirez. Parce qu'on va faire un risotto. Et les autres ingrédients du risotto ne sont pas très chers. Il vous faut un petit peu de riz, alors du riz rond type carnaroli évidemment. Il vous faut du bouillon, il vous faut une échalote, il faut un petit fond de vin blanc, du beurre et du parmesan. Alors, la recette du risotto, vous la connaissez, c'est pas très compliqué en fait. Le risotto, c'est un peu comme reprendre une chanson de Jacques Brel. C'est, on pense que c'est simple et en fait, en réalité, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Parce qu'il y a quelques règles à respecter. La première, c'est donc de travailler avec du beurre, pas d'huile d'olive. Le risotto est un plat du nord de l'Italie, c'est le beurre. On va faire fondre nos échalotes dans le beurre et ensuite on va mettre le riz qu'on va rendre légèrement translucide avant de commencer à mouiller tranquillement, d'abord avec le vin blanc et ensuite avec le bouillon de légumes ou de volaille, en fonction de ce que vous avez. On mouille au fur et à mesure que le riz absorbe, ça dure 20 minutes. Et après, on arrive sur ce qui est la clé absolue du risotto, mantecare. Mantecare, qu'est-ce que c'est ?
Qu'est-ce que c'est ?
C'est la liaison, voilà, c'est la liaison exacte de l'amidon, du beurre froid que vous allez rajouter pour stopper la cuisson, du parmesan et de vos cèpes que vous aurez incorporés 5 minutes avant la fin du risotto de manière à ce qu'il commence à cuire, mais à ce qu'il reste quand même al dente. Et là, il y a une espèce de mouvement, un mouvement de vague. Vous savez, comme si vous faisiez sauter des légumes. Vous allez créer une espèce d'onde dans votre grande poêle, parce qu'un risotto, ça ne se fait pas dans une petite casserole, mais dans une grande poêle. Et la liaison va intervenir. Jamais de crème, évidemment, dans un risotto. Il faut le mantecare à la perfection.
Avec une spatule en bois. Vous savez, cette spatule en bois où il y a des petits trous dedans, on se demande
toujours
à quoi ça sert.
Vous n'êtes pas obligé de faire ce geste sur Europe 1.fr en vidéo. C'est un geste qui pourrait être interprété de diverses manières.
C'est la spatule en bois pour le risotto.
Voilà. Pour le travail, parce qu'il faut que, il faut pas casser l'amidon et il faut le respecter.
Il faut c'est ce que je dis toujours, ne jamais casser l'amidon, premier truc que je dis. Je préciserai à nos auditeurs que moi j'ai un petit truc en plus, c'est-à-dire quand vous faites un risotto, toujours avoir Olivier Pouls à côté de vous qui vous dit non, là il faut touiller plus, là il faut faire. Tu es sûr, tu veux pas rajouter d'eau, J'ai déjà fait ça une fois, plus jamais je vous fais de risotto. Merci quand même Olivier Pouls, qu'on retrouve chaque samedi dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1. Emmanuel est son vrai nom, c'est aussi celui de son spectacle actuellement en tournée et il est 21 et 22 septembre à l'Olympia. Manu Payet est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
Vous tremblez, mes frêles agneaux. C'est normal. Dans le studio Coluche, théâtre de leur affrontement fratricide, l'atmosphère est irrespirable. Et ce n'est pas seulement à cause du nouveau parfum des Varrocks, Brice d'Aioli. Les journalistes en compétition aujourd'hui brûlent de savoir qui va remporter le titre, qui sera élu chroniqueur du jour. Le suspense est insoutenable.
C'est trop calme. Pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop, plus moins calme.
A tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
C'est la main sur le cœur que je vous accueille pour la phase finale de l'équipe est sauvage, cette épique compétition opposant les meilleurs journalistes d'Europe 1. Et sur l'échelle de l'émotion, ce que nous allons vivre dans quelques secondes est très similaire à ce que nous avons vécu le 15 juillet 2018.
Champion du monde pour la deuxième fois dans l'histoire du football français.
Et c'est maintenant que tout se joue. Qui sera désigné chroniqueur du jour ? Ève Roger avec l'influence néfaste des grands frères sur leur cadet, Emmanuel Dutheil avec ses compagnies aériennes à la ramasse, Anis Mbida et le comeback du vinyle, ou encore l'élégante Anne Le Gall avec son benchmark des meilleurs pets de vache. Qui potentiellement peut nous faire perdre un thé dans Télérama, hein, je le précise. Ça, c'est quand même très dangereux. Il est temps, Eva Rock, de découvrir le vote du public.
Ah bah, franchement, à 32%, c'est pour les pets de vache.
Non ! Oh ! Je reconnais bien là le bon goût des auditeurs d'Europe 1. Alors,
oui, le monde change, on peut gagner, on peut marquer des points avec les gaz des vaches.
Ça, pour changer, il change même un peu trop vite à mon goût, le monde. Anne Le Gall marque donc 2 points. Pour ma part, j'accorde mon vote aujourd'hui. Pourquoi je ne réfléchis jamais à l'avance à qui je vais voter ? C'est toujours gênant. Alors, je vous regarde un peu tous. Oh, Anissa Mbida ! Non, Ève Roger ! Je donne mon point à Ève Roger qui, du coup...
Mais on a déjà trop !
Un point supplémentaire. Pour l'instant, c'était Ève Roger en tête du championnat. Mais, évidemment... Le vote le plus important, c'est celui de notre invité d'honneur. Manu Payet, c'est à vous maintenant de nous dire qui est, selon vous, le chroniqueur du jour.
Alors, on va procéder par élimination. Et je vais commencer par Eve.
Oh non !
Mais si, parce que Eve, c'est trop la gagne. C'est trop la gagne. Moi, j'ai envie de voir une petite chroniqueuse tremblotante arriver avec son papier et nous surprendre d'un coup. Si je la vois rentrer et que je sais qu'elle va gagner parce que c'est écrit sur son visage, je ne peux pas la faire gagner parce que je suis du côté du peuple. Ensuite est arrivée Anissa dans ma vie. Et je me suis dit après sa chronique, faisons gagner un moche. Elle a puis après j'ai été troublé parce qu'il s'appelle Emmanuel. Et là j'ai été troublé. Mais enfin, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a celui-là ? Pourquoi il est tendu comme ça ? Il est tendu parce qu'il y a la grande sœur à côté qui lui fait peur. Il ne faut pas les mettre ensemble. Si vous n'êtes pas capable dans cette émission de comprendre qu'il y a des gens qui ne vont pas ensemble, les deux-là, ils baiseront jamais.
Et Roger et Emmanuel Luteuil, effectivement, il y a peu de risques.
Donc ce ne sera pas sur celle-là, même si l'avion était très intéressant.
Ah bah donc là, ça nous laisse...
Ah bah là, pour
on
le coup...
On est au bout du suspense.
Parce qu'en plus, avec cette chronique, tu vois, très planète-friendly, il y avait un petit goût de France Inter dans l'émission d'aujourd'hui.
Merci Manu.
Et donc, eh bien, bravo pour ça, parce que je vous jure, je m'y suis cru à un moment. C'est dire si cette émission est de qualité. Bravo, Anne Le Gall.
Merci, merci Manu Payet.
Anne Le Gall triomphe. Magnifique Anne Le Gall qui remonte tout en haut du classement. C'était la 12e édition de l'Équipée Sauvage en présence de Manu Payet, qu'on vous encourage vivement à aller applaudir sur scène tant qu'il en est encore temps, car ce sont les dernières dates de
Emmanuel Eva. Ce soir à Versailles et puis à Toulon, à Nantes, à l'Olympia évidemment, les 21 et 22 septembre. Mais vous serez en tournée au mois d'octobre, au mois de novembre et au mois de décembre partout en France. Toutes les dates, elles sont à retrouver sur votre site et sur europe1.fr et évidemment sur le compte Twitter de l'émission.
Manu Payet, merci beaucoup d'avoir joué le jeu pendant
merci
ces deux
Mathieu.
Heures.
Merci à toute l'équipe et bravo.
Merci également à ma Dream Team de la rédaction d'Europe 1, Eva Rock, Ève Roger, Anne Le Gall, Emmanuel Duteil, Anissa Mbida. L'équipe est sauvage revient demain 16h.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.